des kiosques magazines.
Et deuxième demi-heure qui nous amène à nous parler de ces banques qui sont devenues arrogantes puisqu'elles savent très bien que si jamais elles font faillite, elles vont entraîner tout le système financier. Alors, résultat, elles font plus ou moins chanter le gouvernement, l'économie, le monde entier, finalement.
Oui, et il faut systématiquement mettre en cause les idées reçues, hein, celles-là entre autres. Et particulièrement aussi en économie où la fragilité des thèses voisine avec des empilements de dogmes. Parmi eux, peut-être est-il pertinent de questionner les théories qui permettent aux banques de ne jamais faire faillite grâce au soutien des États, et ce, même en cas de mauvaise gestion. Alors, ça a intéressé un monsieur qui est lui-même un économiste distingué et qui a une longue expérience de la banque, qui s'appelle Mark Rowe, et qui a publié « Il ne faut pas trop écouter les banques » dans la Tribune du 27 mars. Les banquiers américains, à la tête des établissements « too big to fail », donc je rappelle, ça veut dire « trop important pour faire faillite », militent en faveur d'un assouplissement de la réglementation, les contraignant à la prudence. Le régulateur aurait tort de les écouter, il doit maintenir la pression. Les risques que les banques font courir au système financier continuent de faire les gros titres des journaux. Bank of America n'a pas passé les tests de stress financier de la Réserve fédérale américaine et les régulateurs ont émis des critiques sur les plans de financement de Goldman Sachs et de JP Morgan Chase, obligeant ces deux institutions à réviser à la baisse leurs prévisions de dividendes et de rachats d'actions. Quant à l'intensification des activités de négociation financière de la Citibank, elle soulève des doutes sur son contrôle approprié des risques. Ces résultats révèlent que certaines des plus grandes banques sont toujours menacées. Et pourtant, les banquiers ne cessent de répéter que la mission d'après-crise consistant à renforcer la réglementation et à rendre le système financier plus sûr est pratiquement terminée. Certains brandissent même de récentes études sur la sécurité des banques pour soutenir cet argument. Alors qu'en est-il? Les banques sont-elles encore fragiles ou la réforme de la réglementation post-crise a-t-elle fait son office? Les banques, too big to fail, avantagées sur plusieurs plans. La crise financière de 2008 a mis en lumière deux dangereuses caractéristiques dans le système financier actuel. D'abord, en cas de problème, les États renflouent les banques les plus importantes plutôt que de les laisser s'effondrer et risquer de fragiliser l'économie. Enfin, et cela est pire, être trop importante pour faire faillite, le fameux « too big to fail », encourage les banques à grandir plus encore, d'autant que les créanciers et les partenaires commerciaux préfèrent travailler avec ces établissements bénéficiant d'une garantie implicite de l'État. On voit bien
la
comment
fuite en avant.
Hein, la perversité du système se met en marche. Les banques « too big to fail » ont des taux d'intérêt plus faibles sur la dette que leurs consoeurs de taille moyenne. On voit là aussi comment ça va favoriser les gros et défavoriser les petits. Parce que les prêteurs savent que les obligations ou les contrats d'échange émis par de telles banques seront honorés, même si la propre banque fait défaut. Auparavant, avant et juste après la crise financière de 2007-2008, cela a permis à ces grandes banques de se doter d'un avantage correspondant à plus d'un tiers de leurs capitaux. Ceux qui apprécient peu le renflouement de ces grosses banques sont les économistes, les législateurs et les contribuables. Les petits arrangements spéciaux dont bénéficient les huiles de la finance les dérangent. Encouragés après la crise financière par une opinion publique très remontée, les régulateurs, aux États-Unis comme ailleurs, ont été largement poussés à instaurer des obligations supplémentaires, y compris de capitaux. Et d'autres évolutions réglementaires sont toujours actuellement en projet. De nouvelles études, publiées notamment par le Fonds monétaire international et le Government Accountability Office américain, montrent effectivement que les avantages de long terme accordés aux banques too big to fail comme Citigroup, JP Morgan Chase et Bank of America sont moins importants qu'avant la crise. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise est que les représentants des banques américaines s'appuient sur ces études pour affirmer que le phénomène du trop important pour faire faillite est désormais contenu et qu'il est maintenant temps que les régulateurs se retirent. Les régulateurs ont intérêt à maintenir la pression, une idée périlleuse et pour plusieurs raisons. Pour commencer, l'étude du FMI, tout comme les études similaires, démontre que la probabilité d'un renflouement nécessaire lié aux obligations déjà émises est effectivement plus faible aujourd'hui. Mais aucune étude ne précise pourquoi. Un amoindrissement du risque de renflouement pourrait exprimer la perception selon laquelle la réglementation en place serait appropriée et complète, ou que les participants au marché obligataire attendent peut-être que les nouvelles réglementations comme les tests de stress achèvent de compléter l'arsenal nécessaire. Ou alors, certains investisseurs estiment que les régulateurs sont au front et bénéficient d'un soutien politique suffisant pour mettre en place les protections supplémentaires. Ou enfin, ils estiment que l'économie est actuellement assez forte, les banques ne feront pas faillite avant l'échéance des obligations d'ici quelques années. La seconde raison pour laquelle les régulateurs ne devraient pas ménager leurs efforts est que l'étude se concentre sur la dette à long terme. Mais ce n'est pas là qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est du côté de la dette à court terme. Les opérations des grandes banques sur cette dette sont extrêmement profitables et le règlement des opérations de négoce mieux garanti. Les traders choisissent donc les banques too big to fail plutôt que les institutions de taille moyenne comme contrepartie de leurs échanges à court terme, ce qui entraîne l'explosion des résultats et donc les profits des grandes banques. Il n'est pas aisé de mesurer le degré de stimulation sur la dette à court terme, mais il sera très probablement très important. Le récent effort dans grandes banques mené par Citigroup pour convaincre le Congrès américain d'abroger une disposition essentielle de la loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs de 2010 qui les aurait obligés à opérer la majeure partie de leurs négoces à court terme avec des affiliés distants renforce cette interprétation. Les banquiers prêts à prendre des risques s'ils ne craignent plus le régulateur. Ah, c'est la troisième raison de se méfier de l'attitude des banquiers. Si la pression du régulateur se relâche, ils agiront en conséquence. Ils craindront moins une faillite et seront donc plus enclins à prendre des risques supplémentaires. C'était le cas avant la crise financière et aucune raison commerciale ou psychologique ne permet de penser que cela ne se reproduira pas. Les régulateurs ne doivent pas se laisser distraire par le lobbying des banquiers ou par les études qui ne mesurent ni le rebond à court terme dont a profité le statut d'une banque too big to fail, ni à quel point cette perception de sécurité accrue peut être attribuée à la réglementation en place et aux attentes de réglementation supplémentaires. En l'absence de telles études, les régulateurs doivent compter sur leur seul jugement et intelligence. Si « too big to fail » signifie aussi « trop important pour être réglementé », ce sentiment de sécurité accrue ne saurait durer très longtemps. Je crois que c'est une bonne explication de l'aberration de ce système.
En fait, il y a deux approches et on peut rappeler les deux. Le prototype de l'approche canadienne qui est l'approche très réglementée. Nos banques sont ennuyeuses tellement elles sont sécuritaires, mais elles ne sont jamais en péril. Et il y a l'approche libertarienne ou presque qui consiste à laisser aller le monde de la finance. C'était l'approche du gouvernement Bush. Et si jamais ça va mal, ben ils feront faillite. Et ça a donné Lehman Brothers, ça a donné la crise de 2008, ça a donné des millions de chômeurs à travers le monde. Tout ça parce qu'effectivement, on a laissé trop aller les grands joueurs économiques. Il faut les réglementer. Je vais vous parler d'un nouveau joueur en économie qui, lui, ne sera probablement pas réglementé ou alors très mal, mais vous allez voir que ça me réjouit quand même un petit peu. On vous parle souvent de Bretton Woods ici, qui sont les accords intervenus en 1944 où les gagnants de la Deuxième Guerre mondiale ont décidé de ce que serait l'économie mondiale par la suite. Ces accords-là ont notamment donné le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Bon, récemment, on a voulu faire plus de place aux puissances émergentes, au conseil d'administration du Fonds monétaire international, pour refléter leur vraie importance dans l'économie. Il fallait notamment faire plus de place à la Chine. Le Congrès américain, les républicains principalement, ont bloqué le projet, là, mais le frein aux quatre roues, il n'était pas question que ça passe. On n'allait pas céder du contrôle aux Chinois. Par ailleurs, les Chinois, eux autres, étaient à peu près exclus de la Banque de développement asiatique qui relève d'une présidence japonaise et on sait que Japonais et Chinois ne s'entendent pas très bien. Résultat, les Chinois se tournent et créent leur propre Banque mondiale et vous allez découvrir que tout le monde maintenant embarque dans le train, sauf peut-être les Américains et les Japonais. Alors, ralliement derrière le géant chinois, un texte d'Harold Thibault et de Brice Pedroletti, publié dans Le Monde, repris dans Le Devoir. Il a suffi de quelques mois à la Chine pour remettre en cause le système financier international. Au 31 mars, échéance fixée par la Chine, près d'une quarantaine de pays, du Brésil à la Russie, en passant par la France et le Danemark, ont fait part de leur volonté de participer en tant que membres fondateurs au projet de Banque asiatique d'investissement en infrastructure, la BAII, lancé par la République populaire. À l'automne 2013, à Bali, le président Xi Jinping avait surpris ses hôtes indonésiens en proposant au Forum de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, l'APEC, la création d'une nouvelle banque de développement pour la région en soutien du grand projet chinois des routes de la soie. L'initiative bousculait les prérogatives de la Banque asiatique de développement installée à Manille et dont le président est depuis sa création nommé par le Japon, proche allié des États-Unis et grand rival des Chinois. La Chine avait déjà exprimé de longue date sa frustration devant le blocage de la réforme des institutions financières comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale issue des accords de Bretton Woods en 1944. En juillet 2014, le pouvoir chinois était parvenu à rallier le Brésil, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud autour d'un projet de banque de développement qui leur aurait été réservé. Cette fois, la vague de ralliement à la BAII a des allures de raz-de-marée et prend de court les États-Unis. En dépit des inquiétudes de Washington sur la gouvernance de la future banque et les risques d'opacité, nombre de ses alliés ont pris acte du nouveau poids économique de la Chine, devenu un partenaire incontournable dans la région. Des pays comme l'Australie se sont trouvés face à un dilemme. Pouvaient-ils soutenir l'ancien ordre politique régional au risque de s'aliéner la Chine, locomotive économique de la région, soulève Hugh White, professeur d'études stratégiques à l'Université nationale d'Australie. Dès mai 2014, le ministre des Finances chinois, Monsieur Jiwei, a exposé les détails du projet de banque à ses homologues asiatiques à l'occasion de la réunion annuelle de la Banque asiatique de développement à Astana, au Kazakhstan. Il a pris soin d'inviter 16 d'entre eux le premier soir dans un restaurant chinois de la ville, en évitant soigneusement d'y convier le représentant japonais, qui n'a pas dû accepter beaucoup l'idée. Devant le scepticisme de Tokyo et de Washington, M. Liu a encore rappelé le 22 mars 2015 que les institutions multilatérales préexistantes ne représentent pas nécessairement les meilleures pratiques, manière implicite de faire sienne les critiques contre la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, souvent accusés par le passé d'avoir prescrit des remèdes inappropriés en temps de crise. Il jugeait au passage la Banque asiatique de développement trop bureaucratique. Pour faire campagne au nom de la nouvelle banque, la diplomatie chinoise a envoyé dans les chancelleries occidentales un haut fonctionnaire, Jin Likun, je m'excuse aussi auprès de M. Likun, fin connaisseur du système pour avoir été lui-même vice-président de la Banque asiatique. Et il a fait miroiter des sièges au conseil d'administration de la BAII à ceux qui s'engageaient les premiers. En principe, seuls 3 sièges sur les 20 prévus seront réservés aux pays non asiatiques. L'argumentaire des Chinois pour justifier la création de la nouvelle banque repose sur un déficit présumé en infrastructures dans les pays asiatiques estimé à 8 000 milliards de dollars dans un rapport de la Banque asiatique de développement datant de 2010. Il serait nécessaire de le combler pour parvenir à une croissance soutenue de la région dans les décennies à venir. Pour les pays européens sollicités par la Chine, le raisonnement qui l'emporte est plus terre à terre. Mieux vaut s'engager et avoir son mot à dire de l'intérieur de la future banque que de rester en dehors, comme le préconise Washington. Le Royaume-Uni a cédé le premier, annonçant sa participation dès le 12 mars. Ben voyons, ça m'étonne. Poussant les États-Unis à faire part de leur inquiétude sur l'attitude trop accommodante de Londres vis-à-vis de la Chine. 6 jours plus tard, le 18 mars, les 3 premières économies de la zone euro annonçaient par une démarche collective leur volonté de signer. Bienvenue l'Allemagne, bienvenue la France, bienvenue l'Italie, fanfaronnait dès le lendemain un éditorial de Chine Nouvelle, l'agence de presse chinoise. Le succès de la campagne chinoise pour la BAII témoigne d'une évolution de la diplomatie économique chinoise qui a longtemps privilégié le bilatéral. Pour Eswar Prasad, professeur de politique commerciale à l'Université Cornell à New York, la BAII est l'exemple type d'une Chine plus pointue dans sa perception de l'action économique qui privilégie l'engagement constructif plutôt que la force brute. Elle permet à Pékin de légitimer ses manœuvres d'élargissement de ses sphères d'influence politique et économique, ajoute M. Prasad, qui est l'ancien chef de la division Chine du Fonds monétaire international. Alors que les Occidentaux demandent depuis longtemps à la Chine d'être plus présente sur la scène internationale, de la résolution des conflits armés à celle des crises financières, on a jugé côté français qu'il fallait s'associer au projet pour mieux l'influencer. Les Chinois répondent à la demande qui leur a été faite de s'engager sur les grands sujets internationaux, affirme une source diplomatique. Cet interlocuteur reconnaît qu'il y a toute une série d'inconnus sur le fonctionnement de la banque, sa gouvernance, etc. Mais pour avoir un impact là-dessus, il faut être à l'intérieur. La BAII n'a pas vocation, souligne-t-on à Pékin, de remplacer les 2 canaux traditionnels de l'aide au développement chinois, la China Development Bank et la China Exim Bank, qui ont fait de la Chine le premier créancier de nombreux croissants de pays, du Kenya au Sri Lanka, en passant par le Venezuela. Pékin a d'ailleurs découvert que certains de ses placements s'avèrent plus risqués que prévu. Plusieurs pays, comme l'Ukraine ou le Zimbabwe, connaissent des difficultés de paiement. D'autres, comme le Sri Lanka, font mine de réviser des chantiers d'infrastructures jugés disproportionnés. Sur papier, le projet de la BAII offre donc à la Chine, qui dispose d'amples liquidités à placer, une occasion de partager les risques tout en tirant des dividendes politiques. On le voit, c'est comme s'il y avait un autre pôle qui émergeait en Asie, un pôle économique qui pourrait faire basculer le monde à peu de choses près.
En pleine nuit, une sirène appelle au feu tous les pompiers. Et tout Rio qui se réveille voit brûler l'usine de café. Il n'y a pas de temps à perdre, sinon tout le quartier va brûler. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux de lancer de la grande échelle? Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Pas de panique, il nous les faut. Et l'incendie là-bas fait rage, et le ciel est noir de fumée. Et tous les gens dans les étages se disent, mais que font les pompiers? Il n'y a plus de temps à perdre, sinon tout le quartier va brûler. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Mais non, c'est la grande échelle. On le devine, tout le quartier avait brûlé. Il ne restait plus que des ruines sur les centaines de mètres carrés. Quand tout à coup, dans le jour blême, on vit à courir un pompier qui s'écria, je viens de la part du capitaine pour dire de ne pas vous énerver. On a retrouvé les tuyaux, mais non, c'est la grande échelle. Mais on est en panne d'auto et on cherche la manivelle.
Alors, Rémi Hermoso, qui assure les choix musicaux de cette émission, ou du moins le croit-il, fait dans le succès souvenir aujourd'hui, puisqu'il nous a fait passer Incendie à Rio, un vieux succès de Sacha Distel, qui, je le trouve, quand même introduit très, très bien votre portrait sur les économies de l'Amérique du Sud.
On a perdu les tuyaux, oui. Oui, l'Amérique du Sud, si proche et si lointaine. Un coup d'avion pour fuir l'hiver, c'est souvent le seul repère que nous ayons pour nous intéresser à ses voisins. Pourtant, il faut suivre les développements de la vie économique en Amérique latine. Et aujourd'hui, ce n'est pas pour s'extasier devant la croissance, mais c'est pour mesurer la fracture entre économie et politique. Ça a intéressé Jacques-Hubert Rodier dans Les Échos. Et son article s'appelle « L'Amérique latine à l'heure du doute et de la défiance ». Corruption, ralentissement économique, chute des matières premières. Du Brésil au Mexique, en passant par le Venezuela et l'Argentine, l'Amérique latine est menacée de crises institutionnelles faute de nouvelles réformes. Après la démocratisation des années 80-90, puis l'âge d'or des matières premières au tournant du XXIe siècle, l'Amérique latine est saisie par la fièvre de la contestation qui remet en cause les dirigeants de ces grands pays. Cette fois-ci, il s'agit non pas de révolution, mais d'une crise politique due à une perte de confiance mêlée de suspicion et de doute, comme l'avait dit récemment le président mexicain Enrique Peña Nieto. Au Brésil, près de 2 millions de personnes, dont plus d'un million dans la capitale économique Sao Paulo, ont manifesté à la mi-février en réclamant le départ de la présidente Dilma Rousseff, moins de 6 mois après sa réélection, de justesse il est vrai. En Argentine, la présidente Cristina Kirchner a dû affronter une vague de mécontentement à la suite de la mort dans des circonstances troubles d'un procureur qui enquêtait sur des liens éventuels entre son entourage et l'Iran. Une colère qui a fait descendre dans la rue à Buenos Aires près d'un demi-million de personnes. Si la présidente a été blanchie, le malaise politique persiste. Au Mexique, le président Peña Nieto voit lui aussi sa popularité s'effondrer. Alors qu'elle était une exception dans la morosité ambiante, même Michelle Bachelet a été éclaboussée au Chili par un scandale et voit son image écornée. Au Pérou, Ollanta Humala, qui en dépit de sérieuses difficultés garde une cote de popularité élevée, a dû lui aussi affronter des manifestations, notamment dans l'Amazonie péruvienne, au nom de la défense des terres indiennes. Au Venezuela, la contestation politique désormais endémique contre le président Nicolas Maduro, qui ne possède pas le charisme de son prédécesseur Hugo Chavez, prend parfois un caractère insurrectionnel. Il y a certes bien des différences entre tous ces pays et leurs dirigeants. Entre par exemple un Chavez et un Nieto. Au pouvoir depuis 2012, ce dernier revendique sa politique libérale. Il a engagé des réformes visant à ouvrir l'économie aux capitaux étrangers, souligne Jean-Jacques Kurliansky de l'Iris dans une note d'analyse. Le Venezuela, lui, est sur la voie d'un capitalisme dirigiste et étroitement encadré, et l'on pourrait ajouter d'un pouvoir autoritaire. Mais paradoxalement, qu'il soit de droite ou de gauche, les dirigeants latino-américains sont confrontés à une série de faiblesses similaires. La première, conjoncturelle, est la chute des cours des matières premières, à commencer par le pétrole. Or, que ce soit en Argentine, au Brésil, au Mexique ou au Venezuela, les budgets reposent en grande partie sur les ventes d'or noir, de minerais et de produits agricoles. Principal producteur de pétrole d'Amérique latine devant le Venezuela et le Brésil, le Mexique est certes parvenu à diversifier son économie. Désormais, le brut compte pour moins de 15% de ses exportations, mais la manne pétrolière assure plus du tiers des recettes budgétaires de l'État fédéral. Cette crise, soulignée récemment dans la revue Foreign Affairs Christopher Sabatini, professeur de sciences politiques à Columbia, ne pouvait arriver à un pire moment pour ce pays. Mais elle menace surtout de faillite le Venezuela, dont quelque 50% du budget repose sur recettes pétrolières. Un effondrement économique de ce pays, qui pourrait connaître cette année une récession de 7% selon le FMI, aurait de graves conséquences sur l'ensemble de la région. Car Caracas fournit du pétrole bon marché à 16 pays des Caraïbes et une aide financière à de nombreux pays de la région. Le Venezuela, c'est le pays qui vend l'essence la moins chère du monde, puisque 1 litre vaut 1 cent. Mm-hmm. Ça vous donne une idée.
De... Oui, alors qu'à l'autre bout du spectre, la Norvège, qui est aussi un producteur, est probablement le pays qui la vend la plus chère au monde.
Oui, oui. Cuba, donc on parlait de l'aide financière à de nombreux pays de la région, Cuba en est d'ailleurs le principal bénéficiaire. Avec cette baisse du prix des matières premières et la faible croissance dans la région, qui selon les dernières prévisions du FMI devrait être de 1,25% cette année comme en 2014, se profile la deuxième menace pour les dirigeants latino-américains qui n'ont plus les moyens de lutter contre la pauvreté. Depuis le début du XXIe siècle, d'ambitieux programmes sociaux ont été mis en œuvre, souvent avec succès au Brésil comme au Chili, au Mexique ou au Venezuela. Mais depuis 2012, l'indice de la pauvreté a cessé de diminuer pour stagner à 28% de la population totale, soit 167 millions de pauvres en 2014, selon la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Au Venezuela, le taux est même en forte hausse à plus de 32%, il n'était que de 25% en 2012. Autre mauvaise nouvelle, la remise en question de l'essor des classes moyennes, qui demeurent extrêmement vulnérables au moindre choc, faute de filets de sécurité sociale, assurance médicale, vieillesse, chômage. La corruption constitue la troisième source de mécontentement populaire. Elle affecte à des degrés divers la grande majorité de la classe politique, même si les chefs d'État ou de gouvernement sont en général épargnés. Demande à voir. Bon, bref. Un scandale comme celui de Petrobras au Brésil risque d'emporter l'équipe au pouvoir. Et partout, les affaires de ce type se multiplient. Mais il ne faut pas non plus exagérer la contestation. À l'exception peut-être du Venezuela, on est encore loin d'un printemps de l'Amérique latine qui emporterait les dirigeants corrompus. La crise actuelle souligne toutefois la fragilité des transitions politiques depuis la chute des régimes militaires il y a une vingtaine d'années. Au Chili, au Mexique, au Venezuela et ailleurs, le legs des dictatures est d'avoir conduit à l'installation de régimes présidentiels forts. Même si l'Amérique latine ne retournera pas à ses vieux démons des caudillos, ses dirigeants ne pourront pas s'épargner l'effort de nouvelles réformes politiques et d'un combat contre la corruption. Sinon, la région sera gravement menacée de nouvelles crises institutionnelles. Thank you.
Allez, on enchaîne immédiatement. Vous connaissez évidemment le sommet économique mondial de Davos. C'est cette réunion où les chefs d'État, les hommes d'affaires importants se réunissent pour manger de la fondue au fromage en Suisse en écoutant Bono leur dire quoi faire avec l'argent qu'ils ont en trop. Et à côté de ça, il y a le Forum social mondial qui est connu sous le nom de Porto Alegre parce qu'il s'est tenu au Brésil pour la première fois. Eh bien, sachez que pour sa 15e édition, ce forum va se tenir dans l'hémisphère nord et plus spécialement à Montréal. C'est un très gros événement. On parle de 80 000 participants. Bon, la majeure partie vont être des participants qui vont participer à trois événements qui sont comptés trois fois. Et la majeure partie vont être des participants québécois. Mais c'est quand même un très, très gros événement qui va se tenir en ville et qui va attirer plein de gens intéressants pour peu que le gouvernement fédéral leur délivre un visa qui leur permettrait d'entrer sur le territoire. C'est la principale inquiétude des organisateurs au moment où on se parle.
Vous savez que nos amis de Google ne savent plus quoi faire pour se diversifier. Ils ont bien raison parce que sinon ils seront engloutis peut-être par Facebook. Et on sait tout ce qu'ils font avec les voitures, les lunettes, etc. Eh bien, ils viennent de franchir un pas très important dans le domaine de la santé en s'alliant avec le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson. Et ils ne s'allient pas dans n'importe quoi, mais dans les robots chirurgicaux. Or, les robots chirurgicaux, c'est un avenir tout à fait important qui a largement commencé. Et là, je crois que Google a pris une décision stratégique de très grande importance.
Mm-hmm. Les énergies renouvelables, on le sait, les énergies renouvelables sont en baisse de coûts. On pourrait s'attendre à ce que, bon, par exemple, les panneaux solaires, maintenant, la Chine les brade pour un prix qui est en deçà de leur coût de fabrication pour étouffer l'industrie européenne. On pourrait s'attendre à ce que ça tue tranquillement l'industrie de l'énergie. Eh bien, les investissements augmentent. Et sachez qu'à travers le monde, malgré la baisse du coût du pétrole, l'installation totale d'énergie renouvelable éolienne et solaire est maintenant équivalente à l'ensemble des réacteurs nucléaires américains, ce qui est quand même impressionnant. Il y a 158 réacteurs atomiques aux États-Unis.
Saluons l'ouverture de la ligne d'Air France sur Vancouver, un vol direct qui a été inauguré cette semaine. Et il y aura 5 vols hebdomadaires.
On se rappelle la déclaration de Yves Bolduc qui disait que les écoles achètent moins de livres, il n'y a pas un enfant qui va mourir de ça, là, etc., etc. Ça avait été vertement décrié. Le ministre Bolduc lui-même n'est plus ministre aujourd'hui. Cependant, la baisse d'achat des livres est un phénomène maintenant avéré. Il semblerait que les éditeurs se plaignent de 80% de baisse dans certaines régions, ce qui met en péril les librairies indépendantes. Encore là, j'en parle parce que je suis particulièrement concerné par ce sujet. L'indicatif, vous l'entendez, nous signale que cette émission est déjà terminée. Il nous reste à remercier Rémi Hermoso à la mise en onde. À vous donner rendez-vous à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là.
Au revoir.
Kiosque Magazine.
Jeudi 2 avril, et la date est importante. D'abord parce que mars est fini, yeah, enfin! Ensuite, parce que faire une émission sur l'économie et l'emploi un 1er avril, c'est un déficit de crédibilité absolu, voilà, il n'y a rien à faire. Donc, on est un 2 avril, on est avec vous pour la prochaine heure, et quand je dis on, je parle d'Éric de Belval et moi-même, François Brodeur, et je parle aussi de Rémi Hermoso, qui, derrière sa vitre, s'acharne à ressembler à elle. De quoi parlons-nous?
Alors, vous avez peut-être en mémoire, François, la chanson de Dalida, Parole et Parole. C'était un peu la reprise, d'ailleurs, de ce que Shakespeare écrivait.
Nous l'aurons d'ailleurs à l'oreille pendant cette émission.
Ah, ça tombe bien. Et oui, c'est un peu la reprise de ce que Shakespeare écrivait dans Hamlet. Vous vous souvenez? Words, words, words. Eh bien, contrairement à l'adage qui veut que les paroles s'envolent et les écrits restent, c'est le contraire qui se passe. Les paroles restent parce qu'elles ne s'effacent pas, du moins tant qu'on se les rappelle. Alors que les écrits qui se perdent, eux, ben, ils disparaissent. Ben, dans notre société économique, que reste-t-il de ce que disent ceux qui parlent et écrivent tant? On verra ça. Alors ensuite, vous vous souvenez de l'adage, un autre adage encore, « Too big to fail » qui concerne les banques, un merveilleux bouclier pour elles. Hein. Aucune autre entreprise ne pourrait s'abriter derrière un tel paravent. Je fais des erreurs de gestion, telles que la faillite devrait s'en suivre. Si je suis par exemple un industriel de l'aluminium, j'aurais du mal à y échapper. Si je suis une banque, eh ben, je réclamerais le renflouement de mes actifs par l'État en menaçant de faire s'écrouler toute la mécanique économique comme un jeu de domino. Eh ben, ça marche. Est-ce que c'est légitime? On se posera la question.
Est-ce que ça s'empire surtout?
Oui, vous avez raison. Mais il y a des voix qui s'élèvent pour dire il y a une supercherie. Alors, on terminera pour ce qui me concerne par l'Amérique latine. Et l'Amérique latine, c'est tout aussi important que la Chine ou l'Afrique. Mais c'est également très différent. Et à une période récente qui a vu, par exemple, chanter les louanges de l'Eldorado, plein de promesses du Brésil, succède une ère remplie d'incertitudes et de secousses politico-économiques. C'est bien ce qui fait la différence, par exemple, avec une Chine qui ne se soucie pas de contestations internes ou externes, ou une Afrique encore occupée à construire les bases de son développement.
Eh bien, vous parlez de Chine, je le ferai aussi, puisque la Chine a fait un remarquable pied de nez aux États-Unis cette semaine. Elle a fondé sa propre banque de développement avec l'accord d'à peu près tout le monde sur Terre, sauf les Américains et les Japonais, on le verra. Sujet intéressant. On va aussi parler de croissance, puisqu'il y a un nouveau phénomène en croissance. Voyez-vous, usuellement, on dit, là, l'économie va croître, ça va créer des emplois, on va tous travailler, ça va aller bien. Il faut donc favoriser la croissance. Et bien, ce à quoi on assiste depuis quelques années, c'est une croissance qui ne crée pas d'emplois et donc qui ne règle pas les problèmes socio-économiques. On revient là-dessus. Mais d'abord, là, j'ouvre l'émission là-dessus, le budget fédéral, un retour sur son contenu. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez du contenu du récent budget fédéral?
Moi?
Oui!
Écoutez, je ne l'ai pas encore lu avec assez de détails pour vous donner une opinion définitive.
Eh bien voilà, c'était un poisson d'avril, puisqu'il n'y a pas de budget fédéral. Et c'est la particularité cette année. Normalement, l'année financière du gouvernement fédéral commence le 1er avril. Il est d'usage de déposer un budget auparavant pour savoir où on s'en va. Bon, cette année, le gouvernement Harper a déposé certains de ses cadeaux aux familles et aux Canadiens qui travaillent fort, mais il n'a pas déposé de budget comme tel, ce qui fait que la principale tâche de la Chambre des communes, qui est de surveiller l'activité financière du gouvernement, ne peut pas être accomplie. Manon Cornelier s'est penchée là-dessus dans un texte qui s'appelle « Poisson budgétaire », publié le 1er avril, justement. Joyeux 1er avril, début officiel de l'année financière des gouvernements fédéral et provinciaux. Malgré un contexte économique souvent difficile, à peu près toutes les provinces ont réussi à présenter leur budget avant cette date, y compris l'Alberta, qui pourtant est aux prises avec la quadrature du cercle budgétaire, puisque l'effondrement des cours du pétrole fait en sorte qu'il manque 7 milliards dans ses coffres. Là, c'est assez hallucinant. À Ottawa, en revanche, on invoque l'incertitude provoquée par la baisse du prix du pétrole pour justifier de traîner les pieds. Le gouvernement a pourtant présenté ses crédits principaux avant le 1er mars, comme il se doit. Il n'avait pas le choix s'il voulait obtenir du Parlement les autorisations de dépenser nécessaires pour traverser les prochains mois. Et mardi, il a présenté, encore comme il se doit, les plans et priorités de tous les ministères et organismes fédéraux pour 2015-2016. Le gouvernement a aussi présenté les projets de loi mettant en œuvre ces réductions d'allègements fiscaux pour les familles afin qu'elles puissent en profiter avant les prochaines élections. Les conservateurs savent voir à leurs intérêts. Mais tout cela se fait sans qu'on connaisse le plan d'ensemble. Qu'en est-il du reste de la politique budgétaire, des nouvelles mesures, des prévisions financières et économiques? C'est motus et bouche cousue. Depuis la reprise des travaux parlementaires, le ministre des Finances, Joe Oliver, s'est presque transformé en courant d'air aux communes. Il a du temps, par contre, pour les membres de cercles économiques influents. Ainsi, il sera devant l'Economic Club du Canada, mercredi prochain, pour faire partager ses réflexions avec le gratin de la finance de Toronto. Selon le Globe and Mail, il rencontrerait le lendemain les économistes du secteur privé, un indice que le budget est en préparation. La présentation d'un budget avant le début de l'année financière n'est pas une obligation légale, mais c'est une convention qui s'est imposée depuis plus de 25 ans. Depuis 1990, ce calendrier a été ignoré seulement à 4 occasions, dont 2 fois à cause de la tenue d'élections. Toutes les autres années, le budget a été présenté en janvier, en février ou en mars, et non sans raison. Cela rend le processus budgétaire cohérent. Il l'est d'autant plus quand le dépôt du budget a lieu avant la fin de février, de manière à coïncider avec la présentation des crédits. Mais voilà, ce processus est devenu un véritable fouillis qui ferait perdre son latin à n'importe qui. Les députés s'y retrouvent difficilement, alors que leur premier devoir est de tenir le gouvernement pour responsable de sa gestion des fonds publics. C'est la raison d'être de la démocratie parlementaire. Le gouvernement affirme fournir toute l'information dont le Parlement a besoin pour autoriser les dépenses, ce qui n'est pas l'avis de ceux qui s'y connaissent. Toutefois, à la décharge des conservateurs, Cette érosion de la transparence budgétaire a commencé avant leur arrivée au pouvoir, mais elle s'est aggravée. Le report du budget n'arrange pas les choses, loin de là. Pour approuver l'utilisation des fonds publics, les députés s'appuient sur plus d'un document. Il y a le budget qui présente les énoncés généraux et les priorités du gouvernement en matière de dépenses et de mesures fiscales. Il y a les crédits, soit le plan détaillé des dépenses, qu'on appelle à Ottawa le budget principal des dépenses. Ce sont les crédits que les députés doivent adopter pour que le gouvernement puisse dépenser. Leur présentation doit respecter un calendrier réglementaire, mais pas la présentation du budget. Résultat, les crédits sont généralement présentés avant le budget, ce qui est encore le cas cette année. Cela veut dire que les crédits que les députés voteront ce printemps ne tiennent pas compte de ce qu'annoncera le budget. Ils sont fondés sur les prévisions budgétaires antérieures. Les corrections se feront au fil des demandes de crédits supplémentaires qui sont soumises juste avant l'été et à l'automne. Plus le gouvernement retarde le dépôt du budget, plus il se réserve quelques surprises en vue des élections, mais plus il brouille les cartes pour les parlementaires. Et si le futur budget doit, comme c'est devenu l'habitude, ouvrir la voie à un projet de loi fourre-tout et à adopter avant l'été, ce sera le retour en cinquième vitesse du rouleau compresseur. Une fois de plus, le Parlement sera tourné en ridicule. Le gouvernement profite trop de ce brouillard pour vouloir le dissiper. Ce système lui permet d'échapper au regard inquisiteur, de mettre des bâtons dans les roues des députés et de ne laisser voir que ce qui sert le parti au pouvoir, un avantage à ne pas négliger à quelques mois des élections. S'il fallait que le gouvernement reporte la présentation du budget chaque fois qu'il y a de l'incertitude, aucun échéancier ne tiendrait. Si la baisse du prix du pétrole n'a pas empêché l'Alberta d'agir, rien ne freine vraiment Ottawa. À part l'attente de l'embellie. Comme me le confiait Kevin Page, ancien directeur parlementaire du budget et actuel directeur de la chaire de recherche Jean-Luc Pépin, le report du budget n'est pas vraiment un problème économique, c'est un choix politique. Et c'est particulièrement vrai cette année. Je pense qu'il faut voir quand même dans cette attitude-là une forme d'irresponsabilité et de mépris du Parlement, parce que dans notre régime politique, la séparation du pouvoir est sacrée. On a le gouvernement qui gère la business, mais on a le Parlement qui donne les approbations et les autorisations, et actuellement, il ne peut pas le faire. Il est simplement pas outillé pour ça. Enfin. Oui. Alors, des femmes sur les conseils d'administration. Une idée complètement subversive, voici encore, je dirais, même pas 40 ans. Maintenant, on peut viser la parité. C'est possible de le faire. Est-ce qu'on prend les moyens pour?
Oui, François, mais je me demande si c'est vraiment le sujet dont on avait envisagé de parler maintenant.
Ah!
Oui, non, excusez-moi, je suis un peu en retard par rapport au 1er avril, vous avez tout à fait raison. Bon, si tout ce qui est dit et écrit était suivi d'application, la société en serait vite changée. Mais il semble que l'affichage ait une telle place dans notre société qu'on a vite fait de tenir pour argent comptant le vent des paroles, qu'elles soient dites ou écrites. C'est ce que nous rappelle Stéphanie Gramont. À propos des mots, encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Cette célèbre chanson interprétée par Dalida et Alain Delon, je ne savais plus qu'il y avait Alain Delon là-dedans, m'est revenue en tête en lisant les premières circulaires que les entreprises inscrites à la bourse préparent en vue de leur assemblée annuelle. Nouveauté cette année, les sociétés doivent fournir des renseignements sur la représentation des femmes à la haute direction et au conseil d'administration en vertu d'un règlement adopté le 31 décembre dernier par la plupart des commissions des valeurs mobilières provinciales. Au lieu d'instaurer des quotas, comme l'ont fait plusieurs pays européens pour accroître le nombre de femmes dans des postes clés, le Canada a choisi une approche souple et non contraignante, basée, appliquée ou s'expliquée, qui a permis de belles avancées dans certains pays comme l'Australie. Désormais, les sociétés canadiennes sont tenues de dévoiler le nombre de femmes au conseil d'administration et à la haute direction. Elles doivent aussi exposer leur plan d'action pour améliorer la mixité. Rien que des mots faciles, des mots fragiles. Le hic, c'est que les sociétés ne sont pas forcées d'établir un objectif clair, encore moins de fixer une date pour l'atteindre. Et jusqu'ici, très peu l'ont fait, comme l'a constaté Louise Champoux-Payet, qui s'est transformée en patrouilleuse de circulaires. Très joli ça, patrouilleuse de circulaires, j'aime beaucoup. Chevalière de l'Ordre national du Québec et lauréate du prix du gouverneur général du Canada pour la promotion des femmes dans les conseils d'administration, Madame Champoux-Payet a épluché toutes les circulaires déposées depuis le début de l'année pour pondre la première mouture d'une étude qu'elle produira tous les trimestres. La divulgation, elle y croit. Mais il faut suivre la politique de près pour s'assurer qu'elle rapporte ses fruits, explique-t-elle. Il ne faudrait pas que l'initiative soit un feu de paille, plutôt qu'un véritable outil de transformation durable. Du 1er janvier au 15 mars, environ 10% des entreprises ont déposé leur circulaire. Elles seront plus nombreuses à le faire au printemps, n'empêche, on peut déjà tracer quelques constats. À peine une entreprise sur 10, en fait c'est 3 sur 32, a réellement établi une politique visant la parité homme-femme assortie d'une date butoir. Il s'agit de la Banque Nationale, de la Banque de Montréal et de Celestica. Chapeau ! Cela démontre qu'il est possible d'avancer rondement. Mais à l'opposé, plus de la moitié des entreprises ont candidement expliqué qu'elles n'avaient aucune politique ni aucune cible pour atteindre la parité. On peut citer le détaillant Sears Canada qui compte pourtant bien des femmes parmi sa clientèle. Comme justification, sa circulaire précise que Sears tient compte d'éléments de diversité comme la nationalité, la formation, la provenance géographique, l'expérience et le genre au moment de pourvoir les postes vacants au conseil. Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Il est frappant de voir que les entreprises préfèrent le mot diversité au mot parité. Bien sûr, la diversité de manière plus large est un objectif louable, mais en formulant de grands principes vagues, on risque de faire du surplace sur tous les fronts. S'il n'y a pas de cible quantifiable, on ne pourra jamais mesurer le travail accompli. Et les beaux principes risquent de rester des vœux pieux. L'absence quasi totale du mot parité dans les divulgations dénote un certain inconfort par rapport à cet enjeu, considère Mme Champoux-Payet. Pourtant, la sous-représentation des femmes à la tête des entreprises est une question de société qu'on doit aborder de front. C'est une question d'égalité. Actuellement, les femmes occupent seulement 22% des sièges des conseils d'administration des grandes entreprises, selon le cabinet Spencer Stuart. C'est mieux qu'en 2009 où elles n'étaient que 15%. Mais à ce rythme, on n'atteindra la parité que dans 20 ans. Trop long, on doit accélérer le rythme, passer de la parole aux actes. Mais beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas se donner de cible expliquent que le conseil d'administration requiert d'abord et avant tout des administrateurs qui possèdent l'expertise et les compétences jugées nécessaires. Tout le monde est d'accord. Mais ce genre d'argument sous-entend qu'il n'y a pas assez de femmes compétentes, ce qui est faux. En 2006, le gouvernement du Québec a imposé la parité dans tous les conseils d'administration des sociétés d'État. En 5 ans, les femmes sont passées de 28% à 52% des postes sans aucun problème. Aujourd'hui, il y a une masse critique de femmes pour répondre aux besoins et même plus, assure Mme Champoux-Payet. Les organisations ont tout le choix voulu pour établir l'équilibre. Le bassin est très grand. Il y a plus de femmes capables de répondre à leurs besoins que de postes à combler. Signe que les temps changent, les femmes ont obtenu 43% des nominations à titre de nouveaux membres du conseil d'administration l'année dernière. Voilà qui donne espoir. Souhaitons que le nouveau règlement sur la parité permette d'accélérer le changement. La dernière chose dont les femmes ont besoin, ce sont des formules creuses qui ajoutent quelques pages dans les circulaires déjà trop longues des entreprises. Au-delà des mots, il faut des résultats. Autrement, il faudra se rendre à l'évidence que les quotas sont plus efficaces que des paroles en l'air.
Et quelle entreprise a les moyens de se priver de l'apport d'une femme?
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent. Sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais, mon vent.
là mon destin, te parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Tu es mon rêve défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fit danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbons et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Et non, ce n'était ni Alain Delon, ni Dalida, mais bien Albert Miller et Sylvie Tremblay qui reprenaient ce succès intemporel, disons-le franchement. Ça nous amène à parler de croissance économique. Parole, ça va très bien parler de croissance économique, je trouve. Plus particulièrement d'un texte d'Éric Desrosiers paru dans Le Devoir également du 1er avril, ce qui en fait un texte suspect à mes yeux. Mais enfin, je vous le lis quand même. « Gare à la croissance économique sans emploi ». Et il faudra trouver le moyen de raccrocher la création d'emplois à la croissance économique si l'on ne veut pas mettre en péril les progrès réalisés ces dernières décennies en matière de niveau de vie, avertit l'OCDE. De plus en plus de pays aux prises avec une croissance économique sans emploi, constate un rapport du Centre de développement de l'OCDE dévoilé mardi. Particulièrement prononcé depuis le tournant des années 2000, la tendance s'est traduite, par exemple, par une croissance économique réelle de plus de 70 % aux États-Unis de 1992 à 2012, alors que l'emploi ne progressait que de 20 % et que le taux d'activité des 24-65 ans reculait, indiquant qu'on s'adaptait à la faiblesse de l'offre d'emploi en restant plus longtemps aux études, en prenant sa retraite plus tôt ou simplement en cessant de chercher du travail. Ce phénomène inquiétant n'est pas réservé aux pays riches. Il s'est étendu aux puissances émergentes ainsi qu'à d'autres pays beaucoup plus pauvres comme le Bangladesh et le Ghana, note le rapport de 160 pages intitulé « Assurer des moyens de subsistance pour tous ». Le cas de la Chine est frappant, édito. Entre 1991 et 2012, le produit intérieur brut a été multiplié environ par 9. Ajusté en fonction de l'inflation, alors que l'emploi total stagnait et que le taux d'activité des 24 à 65 ans passait de 85 à 77 %. L'inquiétante tendance s'accompagne de conditions de travail et d'une sécurité d'emploi qui reste précaire, spécialement pour les femmes, dit-on. Elle découle notamment du problème de chômage chronique auquel font face bien des pays, mais aussi de la vitesse de l'automatisation et d'autres innovations technologiques qui remplacent de plus en plus de travailleurs, au point de faire reculer en 30 ans la part du travail dans la valeur totale de la production mondiale de 64 à 59 %. Ce phénomène est d'autant plus préoccupant, dit-on, qu'il se produit alors que les pays riches et émergents sont vieillissants et n'ont pas les moyens de laisser une partie de leur main-d'œuvre sur le carreau et que plusieurs pays en développement, notamment en Afrique, compteront au contraire de plus en plus de jeunes en quête d'emploi. Ça compromet les progrès immenses réalisés en matière de niveau de vie. Plus de 2 milliards de personnes se sont arrachées à la pauvreté extrême depuis 40 ans. Des travailleurs peu qualifiés ont augmenté leur salaire, l'espérance de vie s'est améliorée, le niveau d'alphabétisation est plus élevé que jamais. La croissance sans emploi n'est pas la seule tendance qui menace les acquis, souligne le rapport de l'OCDE. Il faudrait ajouter à la liste l'accroissement des inégalités, mais ça va avec. Si on crée de l'emploi, effectivement, si on crée de la croissance, on crée plus de richesses, et si on ne crée pas d'emploi, ça veut dire que cette richesse-là se ramasse dans les mêmes mains. Donc, l'accroissement des inégalités, les changements climatiques, la fragilité persistante des marchés financiers ou encore la montée de l'insécurité par rapport au terrorisme et à la cybercriminalité. L'interaction de ces phénomènes délétères pourrait rapidement tourner au cauchemar, note le rapport. Une panne de création d'emplois, un vieillissement de la population et une crise de finances publiques peuvent faire un vilain mélange, tout comme se retrouver avec des millions de jeunes au chômage, une multiplication des épisodes de sécheresse et une urbanisation débridée. On voudrait que les gouvernements nous sortent de ce mauvais pas, disent les auteurs du rapport. Mais ces derniers ne sont pas toujours bien équipés pour relever le défi. Les plus pauvres n'ont pas toujours fini de se donner tous les leviers d'un État moderne, alors que plusieurs pays plus riches sont aux prises avec des finances publiques fragiles, une crise de confiance des citoyens et leur action est affligée d'une vision à court terme. Il faudra bien pourtant que les gouvernements prennent conscience du danger qui guette et trouvent le moyen de passer à l'action sur les plans international, national et local. Sur la scène mondiale, il devient urgent d'arriver à une entente permettant de s'attaquer au changement climatique et de mieux partager l'accès à l'eau potable, dit-on. Il faudrait aussi, entre autres, poursuivre l'assainissement du marché financier et que le Concert des Nations, si vous le rencontrez, le Concert des Nations, dites-lui que la société civile le cherche, le Concert des Nations convienne d'un moyen de prévenir l'évasion fiscale par les multinationales et d'améliorer la progressivité des régimes fiscaux. Sur la scène nationale, il faudrait prendre le virage de l'économie verte, permettre l'éducation et la formation professionnelle tout au cours de la vie, avoir de meilleurs programmes sociaux dans les pays en développement et instaurer un revenu minimum garanti dans les pays riches. En matière de travail, les auteurs du rapport de l'OCDE voudraient qu'on prenne acte du fait que le plein emploi est devenu une illusion pour de plus en plus de personnes. On propose à la place une approche basée sur la flexibilité, où les travailleurs seraient aidés à rapidement s'adapter aux changements du marché du travail. Inspiré du système dit de flexicurité mis au point au Danemark, ce modèle offrirait aux travailleurs, durant les périodes de transition, des portefeuilles moyens qui seraient composés de travail à temps partiel, de formation rémunérée et d'allocations chômage. Je trouve ce texte très intéressant parce que on prend souvent pour acquis que la croissance solutionne tous les problèmes. Ça solutionne les problèmes des finances publiques, bien sûr, mais c'est à peu près le seul. Si ce n'est pas suivi par l'emploi, ça va créer un paquet de problèmes.
Quelques brèves. Alors, je voudrais relayer la parole d'un député, monsieur Alain Giguère, à propos du problème de Post-Canada, qui semble être une fumisterie. Je parle de la fin de la livraison du courrier à domicile. Et je le cite parce que vraiment, ça mérite d'être cité. Il n'y a pas que le courrier que les conservateurs n'arrivent pas à livrer. Comprendre les livres comptables semble aussi difficile pour eux. Post-Canada est une société rentable et la fin de la livraison du courrier est une décision idéologique et non financière. En effet, Post-Canada a fait un profit de 194 millions de dollars cette année.
Et pour ma part, j'y vais avec des nouvelles sportives. Après deux périodes de jeu, les Belugas du Saint-Laurent mènent 1-0 contre les pétroliers d'Alberta qui viennent de renoncer de construire un port à Kakuna. Voilà, c'est fait. Dans le projet Énergie Est, il n'y a maintenant plus de port pétrolier prévu au Québec, ce qui diminue somptueusement les retombées promises du projet sur le territoire québécois. Alors, on verra de quoi il retourne sous peu. Mais en attendant, le gouvernement, lui, a demandé au gouvernement fédéral de stopper le processus d'approbation tant qu'on ne saura pas, à tout le moins, c'est quoi le projet Énergie Est, parce que dans l'état actuel des choses, on ne peut pas le préciser.
Quelques nouvelles du front, je veux parler de la guerre que se livrent Apple et Samsung, les deux leaders du téléphone intelligent. Eh bien, figurez-vous que le prochain smartphone de chez Samsung sera pliable. Mais non, c'est pas une blague, alors on pourra le plier, je sais pas si c'est en deux ou en quatre, le mettre dans sa poche. Faites-le, parce que comme ça, en le pliant, en le mettant dans votre poche, peut-être qu'il se cassera.
Non, toute l'idée est là, justement, c'est l'écran va pouvoir plier sans se rompre. Climat, tiens, je reste dans le climat pour vous dire que ça y est, les gens sérieux s'en mêlent. On vient de le voir avec l'OCDE qui lançait un appel. Eh bien, sachez que les grandes banques publiques de développement se sont réunies en Europe pour justement arrêter une norme sur ce qu'est le développement vert et encourager toute l'industrie financière à y adhérer de façon à ce que ce soit clair et qu'on ne puisse plus l'ignorer dans les finances publiques parce que tout le monde voit venir la menace. La grande question, c'est quand est-ce qu'on va commencer à payer pour notre incurie actuelle?
Vous savez que le prototype rare d'un premier penny américain datant de 1792 vient de changer de propriétaire pour 117 millions de pennies, c'est-à-dire 1,17 million de dollars, lors d'une vente aux enchères à Baltimore.
Et pendant ce temps-là, on a aboli le cent chez nous. Quelle incurie! Voilà qui termine la première moitié de cette émission. Restez avec nous. Au retour de la pause, on vous parle des banques qui sont trop grosses pour faire faillite, de Chine et d'Amérique latine. À tout de suite!